Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Interprétis est devenu incontournable auprès des sourds et des malentendants. L'entreprise toulousaine est spécialisée dans l'interprétariat français en langue des signes. Elle vient de fêter ses 20 ans. C'est une SCOP. Sa gérante, Élise Guyenne, est notre invitée. On aimerait, à travers cette émission, vous faire entrer dans un univers souvent méconnu, tout simplement parce que nous n'y sommes pas confrontés, celui des sourds et des malentendants. Bonjour Élise Guyenne.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Interprétis, c'est le nom de votre SCOP, c'est une SCOP, et vous proposez des services d'interprète en langue des signes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Élise ?
On intervient dans toutes les situations où des personnes sourdes ont besoin de communiquer avec des personnes entendantes. Notre public, c'est les sourds qui utilisent la langue des signes. Et on est là vraiment dans tous les moments de la vie personnelle, privée, professionnelle, etc.
Alors, vous vous adressez à quel type de personnes en situation de handicap ? On peut parler d'handicap, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont sourdes de naissance ou qui le deviennent en étant adultes suite à un accident ou l'âge, par exemple ?
La plupart du temps, les usagers de la langue des signes sont des personnes qui sont soit nées sourdes, soit devenues sourdes dans les toutes premières années, c'est-à-dire avant l'acquisition du langage. Les personnes qui deviennent sourdes plus tardivement, généralement, privilégient la langue française. En fait, même si elles n'entendent plus, parfois elles peuvent être appareillées. Oui, hein, les personnes malentendantes appareillées ont parfois des restes auditifs suffisants pour comprendre la parole. Mm-hmm. Et en tout cas, elles s'expriment en langue vocale française et elles lisent sur les lèvres, par exemple.
Voilà, tout à fait.
Nous, on travaille avec un public de personnes qui privilégient la langue des signes. Alors, ça fait un petit pool de personnes, la surdité c'est un handicap très répandu en France, ça touche beaucoup de personnes, notamment les personnes âgées dont l'audition décroît avec l'âge, mais les personnes qui utilisent la langue des signes c'est beaucoup moins de personnes.
Alors on utilise la langue des signes dès la naissance ou presque, comment s'aperçoit-on dès la naissance que l'enfant est sourd ?
Alors, c'est assez difficile de savoir si l'enfant est sourd. Au départ, l'enfant, on communique avec lui surtout par le regard et par des communications gestuelles. En tout cas, les parents lui parlent, mais lui ne parle pas tout de suite. Il faut savoir que l'acquisition de la capacité phonatoire, le fait de pouvoir parler, articuler avec la bouche, la langue, les muscles de la bouche et de la langue sont compliqués à contrôler. Et c'est pour ça que les petits-enfants, en général, ne se mettent à parler que vers 18 mois ou un an, alors qu'on a remarqué dans les familles de sourds qui pratiquent la langue des signes que des enfants dès l'âge de 8-9 mois commencent à donner des signifiants en langue des signes. Que les enfants soient sourds ou entendants, mais comme les parents utilisent la langue des signes, les enfants comprennent très très vite le signifiant qu'il y a derrière et aussi la symbolique du langage. Donc ça peut venir très très tôt chez les petits de familles sourdes. Par contre, la surdité se transmet très peu de parents à enfants. Il y a quelques surdités congénitales, mais souvent elles sont sur des gènes récessifs, donc il faut une combinaison particulière. On évalue le fait qu'il y a un peu plus de 95% des enfants qui naissent sourds, qui naissent de parents entendants. Donc là, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de transmission familiale de la langue des signes.
Bien sûr.
Donc, ça nécessite une prise en charge par des professionnels de la langue des signes pour transmettre la langue des signes. Après, il y a le choix des parents de vouloir donner la langue des signes ou de vouloir rester dans l'oralisme. Ce qui est très, très important, c'est que les parents reçoivent une information éclairée. Je dirais neutre aussi, pour que le choix soit neutre, il faut qu'il soit éclairé autant sur l'éducation oraliste que sur l'éducation en langue des signes. Après, c'est un choix familial.
Est-ce qu'on peut apprendre à signer avec de petits-enfants, des enfants très jeunes ? Alors, on sait aussi qu'il y a des expériences qui ont été menées dans des crèches auprès d'enfants entendants ces dernières années, donc des tout-petits. Comment ça se passe, j'allais dire, les premiers mois où on apprend à signer avec des enfants ?
Ça vient beaucoup des États-Unis, cette méthode qu'on appelle le baby sign. Effectivement, la langue des signes étant très présente aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes entendantes qui connaissent la langue des signes et qui l'utilisent pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. C'est-à-dire que quand un enfant a besoin d'exprimer qu'il a besoin de faire pipi ou qu'il a faim ou qu'il a soif ou qu'il a trop chaud, etc., avec la langue des signes, un bébé de 10 mois, 1 an,
peut le dire.
Capable de le dire, mais pas de le dire avec ses mains, mais
tout
pas de
fait.
Le dire avec...
C'est assez impressionnant, effectivement.
C'est impressionnant parce que ça permet de réduire la frustration liée à la barrière de la communication.
Ouais.
Donc, ça marche bien avec les tout-petits et c'est vrai que c'est un outil de communication extraordinaire avec les bébés. Et c'est intéressant de voir que cette frustration qu'on peut voir chez les bébés, eh bien, pour les adultes sourds qui n'arrivent pas à communiquer ou qui n'arrivent pas à se faire comprendre et qui n'arrivent pas à comprendre ce que disent les entendants autour d'eux, ben on est sur la même frustration, en fait, de difficulté d'entrer en communication.
Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe, en revenant sur le langage des signes en crèche, c'est quelque chose qui prend de l'essor ?
Petit à petit, oui. Ça dépend des régions, ça dépend des projets de crèche. Il faut aussi avoir des adultes qui soient formés à ça. En général, c'est des adultes qui sont formés au baby sign, c'est-à-dire pas forcément à la langue des signes. Mais c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que dans une crèche où on utilise le baby sign, il n'y a pas... si vous voulez, la langue des signes, elle a une syntaxe et une grammaire propre qui n'est pas la même. Le baby sign, c'est juste utiliser quelques signes signifiants pour... pouvoir communiquer avec un enfant. Mais ça marche avec les enfants entendants. Et même quand on accueille un bébé ou un enfant sourd, c'est utile, ça marche. Ça permet de lever les barrières communicationnelles petit à petit. C'est vrai que depuis les années 80-90, avec tout un cheminement, il y a eu la révolution culturelle, les revendications des langues régionales, etc. La langue des signes a de plus en plus le droit de cité. Il y a eu Emmanuel Laborie qui a eu son César, son Molière, pardon, pour les enfants du silence. Enfin, la langue des signes est de plus en plus reconnue. Les lois aussi ont permis de voir de la langue des signes à la télé, du sous-titrage, etc. Donc l'accessibilité se développe. Et ça profite à tous, en fait.
Oui,
ça profite aux sourds et ça profite aussi aux petits.
C'est une connaissance, effectivement. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait aussi de méconnaissance. C'est vrai que on a l'impression parfois que c'est deux mondes. Les entendants et les malentendants, à quoi sont confrontés les sourds dans la vie quotidienne ? Prenons un exemple, le travail.
Dans le milieu professionnel, il y a des situations parfois difficiles de personnes sourdes qui se retrouvent isolées parce que ça demande beaucoup d'efforts de rentrer en communication l'un avec l'autre. Après, tous les cas sont différents. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sourdes qui arrivent à oraliser, qui arrivent à parler, ou des personnes sourdes qui n'oralisent pas, mais qui maîtrisent très bien le français écrit, et donc qui communiquent facilement à l'écrit. Il y a aussi des entreprises qui sont très prévenantes vis-à-vis de leurs collaborateurs sourds et qui organisent un dispositif d'inclusion, donc qui prévoit des transmissions d'informations par écrit, beaucoup, qui prévoit des interprètes quand il y a des réunions, qui prévoit des traces écrites, des formulaires, etc., pour que la personne sourd ne soit pas en déperdition d'informations. Après, il y a tous les moments informels aussi. C'est-à-dire quand on doit manger tous les jours de l'année à la cantine ou au self, seul, parce que il n'y a pas d'autres sourds ou il n'y a pas d'autres personnes qui maîtrisent la langue des signes, ça peut être lourd à porter quand même,
tout à fait.
Sur le long terme.
Et vous intervenez, vous, en entreprise. Alors, dans quel cadre ? Donnez-nous quelques exemples.
On intervient souvent là où il y a le plus de besoins et ça va être généralement soit sur des actions de formation, parce que lorsque une personne est en situation d'apprentissage, on ne peut pas lui demander à la fois d'apprendre, c'est-à-dire d'avoir affaire à des nouvelles connaissances, à développer son effort cognitif, en plus de développer son effort de communication. Donc sur les formations, on intervient à ces moments-là. Et puis aussi, on est là sur tous les temps de réunion, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de personnes, qu'il peut y avoir des prises de parole différentes. Et on est là pour traduire vers la langue des signes toutes ces personnes-là. Alors je le rappelle, on est là quand il y a un sourd signant. Parfois, il y a d'autres solutions qui existent. Pour des sourds oralistes, par exemple, il y a de la vélotypie ou de la transcription écrite. Et donc, là, au lieu d'avoir un interprète, il a un écran et tout ce qui est dit est écrit sur son écran, par exemple. Donc, nous, on travaille vraiment avec les sourds signants, c'est cette solution. Pour les autres cas ou les autres types de communication dans la surdité, il y a d'autres solutions.
Alors, qui fait appel à vous ? Est-ce que c'est le salarié ? Est-ce que c'est l'entreprise ?
Un peu les deux. La question qui va se poser après, c'est le financement, en fait. Parce que nous, c'est notre métier. On fait ça à temps plein pour la plupart. En tout cas, on n'a pas un autre métier à côté. On est tous diplômés d'un Master 2. Donc, c'est vraiment notre métier. C'est notre carrière pour la plupart. Je le dis parce qu'on a un interprète qui va être à la retraite à la fin de l'année.
Donc, vous allez recruter.
C'est ça, on recrute. Donc, on ne fait pas ça sur notre temps libre quand on n'a rien à faire. Ouais, c'est vraiment notre métier. Et du coup, on a besoin d'être, de pouvoir facturer nos prestations pour avoir un modèle économique viable.
Bien sûr.
Donc, le besoin, il est à la fois de la personne sourde, mais à la fois de ses collaborateurs. Mmh. Faire valoir aussi que la présence d'une personne sourde dans l'équipe, ça peut avoir aussi une valeur ajoutée, une manière de voir le monde différemment et avoir des approches différentes et aussi des compétences propres qui peuvent être spécifiques. Et donc, il faut que ça passe forcément par sa hiérarchie pour qu'il y ait une demande. Dans les grosses entreprises, souvent, il y a une mission handicap qui peut organiser ça, qui peut chercher les financements. Pour les salariés handicapés en général, mais dont sourds du privé, il faut monter des dossiers auprès de la GFIP.
D'accord.
Et puis, il peut y avoir des financements. Après, il y a d'autres financements. Pour les fonctionnaires du public, il y a le FIPHFP. Enfin, il y a d'autres types de dossiers.
D'accord. Mais il y a des possibilités de prise en charge. Ça, c'est quand même très important de signaler. Parce que, par exemple, une heure d'interprétariat, vous facturez combien ?
Ben, par exemple, pour de l'interprétation de réunion en français, langue des signes, c'est 78,50 euros hors taxe pour une heure pour une personne. Chez nous, il y a peut-être d'autres endroits où c'est plus cher ou moins cher. Par exemple, à Paris, ils ne facturent pas que pour une heure. Les temps de déplacement étant importants à Paris, c'est minimum 2 heures, c'est minimum la demi-journée.
Tout à fait. Vous êtes une entreprise qui compte sur la région toulousaine. Combien de salariés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a 36 salariés.
Ouais. 36 salariés, combien d'interprètes ?
On a 26 interprètes, mais seulement 16 ou 18 équivalents temps plein. Ça change un petit peu tous les mois. On a beaucoup de temps partiel. Notamment parce qu'on a beaucoup de femmes. C'est une profession, c'est pas propre à l'interprétariat, c'est une profession qui est essentiellement féminine. Et on a chaque année des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Il y a aussi beaucoup de turnover dans le métier. L'Association française des interprètes en langue des signes avait déjà fait une étude il y a quelques années qui disait que le turnover sur le métier est environ de 10-15 ans. C'est-à-dire qu'il est difficile de durer dans le métier, notamment parce que les modalités de reconnaissance de notre activité sont minces et les interprètes s'épuisent.
Oui, c'est ça. Voilà, physiquement... C'est effectivement signé toute la journée. À la fin de la journée, vous devez être épuisé.
C'est ça, mais il y a aussi que sur le long terme, le manque de reconnaissance fait que l'énergie, en fait, l'engagement s'épuise et que certains interprètes se destinent vers d'autres choses. Et puis, il y a le fait de durer sur une carrière. La maladie professionnelle la plus importante chez les interprètes français langue des signes, c'est les troubles musculo-squelettiques, les tendinites, l'arthrose, etc. C'est assez important. Donc forcément, à partir d'un certain âge, ça devient difficile. Et il y a quelques interprètes qui ont des stratégies de se réorienter vers d'autres choses.
De faire autre chose.
Et c'est possible aussi parce que comme on est interprète de service et qu'on fait plein de choses différentes... moi j'ai m'est arrivé de traduire dans des CAP cuisine ou des formations de serrurerie ou des formations de comptable ou des formations. Et donc on acquiert quand même des connaissances, alors pas forcément des compétences, mais au moins des connaissances et on a une petite fenêtre ouverte sur le monde du travail qui est assez impressionnante.
Et c'est très enrichissant. On va en reparler dans un instant, on va reparler du métier et des conditions de recrutement également. Si les auditeurs nous sont intéressés par ce métier d'interprète en langue des signes, puis on reparle également d'interprétis. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Élise Guyen est gérante de la SCOP Interprétis. Elle est notre invitée. Bonjour Denis Avril.
Bonjour Doris.
Nous sommes ravis de vous retrouver au micro du Goût d'entreprendre. Denis, vous nous accompagnez régulièrement avec d'autres consultants tout au long de cette émission. Quelle est la première, j'allais dire, remarque ou question à notre invitée ?
La première, c'est peut-être un peu personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça ? Et qu'est-ce qui vous amène à continuer ? J'allais dire, on doit avoir des contacts passionnants dans ce monde-là, quand même.
Alors, à titre personnel, il paraît que j'ai toujours eu envie d'apprendre la langue des signes. Ma mère raconte que déjà quand j'étais adolescente, je voulais apprendre la langue des signes. Je m'étais renseignée d'ailleurs, mais c'était un peu hors budget pour moi à l'époque. Sa supposition à elle, c'est que comme j'adorais déjà le théâtre et Jacques Brel, qui faisait des mouvements comme ça, beaucoup en chantant, c'est que parler avec les mains, c'était très signifiant pour moi. C'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et lorsque j'ai fait mes études, j'ai fait des études de droit. Et à Paris, l'université de droit, c'est juste à côté de l'INJS, l'Institut National des Jeunes Sourds. Donc au Panthéon-Sorbonne. Et en passant devant, je me suis rendu compte que là, il y avait une association qui donnait des cours de langue des signes. Je suis rentrée, j'étais étudiante, c'était moitié prix. Et je suis rentrée là-dedans. Ouais, j'ai plongé là-dedans. Et c'est vrai que j'étais inscrite en master de droit cette année-là. Et c'est là que j'ai basculé et je me suis dit, non, mais je faisais du droit social, ça m'intéressait. Mais j'avais envie de travailler avec la langue des signes. Au départ, je ne voulais pas forcément être interprète. Je me disais, oui... c'est important le social, j'ai envie d'aider les autres, je vais peut-être faire un autre métier. Et puis finalement, un concours de circonstances a fait que j'ai revu mon jugement et je me suis dit que comme la surdité, j'avais envie de travailler avec la langue des signes, mais que la surdité, je ne la connaissais pas encore bien, le métier d'interprète, pour lequel il faut être neutre en fait, il y a un code déontologique dans le métier, la fidélité, la neutralité, le secret professionnel. C'était un bon commencement de carrière parce que j'allais pouvoir observer et être utile sans avoir à donner ma vision de comment il faut aider les gens. Donc je suis rentrée là, dans ce métier-là, et là je me suis rendue compte qu'en fait, je suis bien plus utile en étant interprète qu'en faisant un autre métier, entre guillemets, d'aide. Parce que la difficulté de la plupart des sourds, c'est d'avoir accès aux formations, parce qu'elles ne sont pas interprétées, d'avoir accès à la communication pour pouvoir se faire entendre. Et donc, en étant interprète, je leur prête ma voix, je leur permets de se faire entendre. Et ma foi, tous les boulots d'aide, tous les métiers médico-sociaux pour aider, ils peuvent très bien le faire. Éducateurs spécialisés, enseignants, etc., ils peuvent le faire eux-mêmes. Et finalement, je suis bien plus utile en étant cet outil de communication qui leur permet eux-mêmes de se réaliser.
Un vecteur de communication. Donc pour vous, c'est riche, c'est quelque chose d'enrichissant qui vous nourrit en fait. Ça a du sens.
Ça a du sens. J'ai un métier qui a du sens et c'est pour ça que je suis toujours là.
Denis, une autre question.
Voilà. Non, mais entre effectivement cette envie que vous aviez déjà adolescente et maintenant, donc vous apportez beaucoup aux autres. Vous avez une fibre sociale, après ce qu'on comprend, importante, qui vous a amené à ça. Mais à vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, vraiment, ces contacts avec ces personnes dans notre métier
le métier est extrêmement polyvalent. Nous, on revendique aussi d'être un service d'interprète, c'est-à-dire qu'on a vraiment la croyance que si un interprète ne fait qu'une seule chose, il va peut-être devenir très bon dans cette chose-là, mais ses capacités, ses compétences d'interprétation vont tellement se réduire à côté qu'il risque d'entacher son employabilité. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que la neutralité de l'interprète, elle est mise à mal quand on reste trop longtemps au sein d'une équipe. Donc, quand un interprète est institutionnalisé, mettons dans une équipe, dans une entreprise, par exemple, ou dans un collège, ou dans un lycée, etc., la neutralité de l'interprète risque d'être entachée, soit du point de vue de l'interprète lui-même, soit de la perception que l'équipe a de sa neutralité à lui. C'est assez complexe. Mais donc, on revendique le fait de travailler en service. Et le fait de travailler en service, on fait de tout. On fait du médical, on fait du pédagogique, on fait de la visio-interprétation aussi. On est derrière un écran et on permet aux sourds de téléphoner. On travaille dans des entreprises, on travaille pour des conférences dans le milieu culturel, on travaille pour les collectivités territoriales. On voit beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on est très en prise avec le monde, avec la réalité du terrain, la réalité de la vie des gens.
C'est ça, ouais.
Donc ça, c'est très enrichissant pour nous. C'est ce qu'apprécient la plupart des interprètes chez nous.
Est-ce que c'est un métier stressant? Vous voyez ce que je veux dire, au sens où vous vous mettez beaucoup la pression, où vous avez la pression à la fois de la personne sourde et de la personne qui est en face de vous. Comment vous arrivez à garder votre neutralité?
Alors, c'est un métier stressant. un métier stressant parce que on a beaucoup, enfin cette année en tout cas particulièrement, on a pas mal de demandes. Mais de toute façon, la rigidité économique, je dirais, fait qu'il faut qu'on remplisse les plannings des interprètes. On ne peut pas les envoyer une fois à tel endroit, une fois à tel autre. Donc les interprètes ont des plannings chargés. Et ne serait-ce que les déplacements deviennent une source de stress.
Ouais.
Être sûr d'arriver à l'heure à son prochain rendez-vous, ça devient compliqué, surtout dans la métropole toulousaine. Je ne vous parle même pas des jours de grève, mais...
on va dire toute l'année.
Voilà, c'est déjà une source de stress. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'à Toulouse, peut-être un peu plus qu'ailleurs, peut-être pas qu'à Paris, mais à Toulouse, on a une communauté sourde qui est très exigeante sur le niveau de qualité de rendu en langue des, en français vocal et en langue des signes aussi bien sûr. On a à Toulouse, c'est lié à l'histoire des classes bilingues toulousaines qui sont un peu une exception française européenne, mais on a effectivement des professionnels sourds qui jouent leur image par le biais de l'interprète et pour lequel il faut arriver à des prestations de très très haute qualité. Donc ça veut dire qu'il faut que les interprètes ils aient pu préparer leur intervention, qu'ils soient frais et dispo, qu'ils soient reposés, etc. Et toute cette combinaison de choses font qu'effectivement, ça peut être stressant et le stress va accentuer la survenue des maladies, des troubles musculo-squelettiques.
Tout à fait. Denis, une autre question.
Alors, je crois que vous êtes organisé en SCOP.
Oui.
Pourquoi ce choix?
Initialement, le choix, il est aussi conjoncturel. Il y avait une association, avant d'avoir Interprétis, il y avait une association qui s'appelait Interpréter en langue des signes, donc qui était gérée par un collectif, un conseil d'administration bénévole, composé notamment de personnes sourdes. Et puis, il y a eu un dépôt de bilan. Le conseil d'administration a dû licencier tout le monde, enfin fermer, faire faillite. Et à ce moment-là, les interprètes, moi je ne suis pas une des fondatrices, mais les cinq interprètes qui sont fondateurs d'Interprétis, ils suivaient déjà une autre personne sourde, Monsieur Jacques Sangla, qui a ensuite eu une carrière très importante. Et lui, il était déjà structuré en coopérative. Il avait une scope d'audiovisuel. Il était suivi par l'Union régionale des scopes. Donc les interprètes se sont dit que c'était une solution intéressante parce que ça voulait dire que les salariés pouvaient prendre les choix stratégiques décisionnels. Donc ils se sont structurés en scope. Moi, je vous avoue que quand j'ai quitté Paris pour arriver à Toulouse et rentrer à Interprétis, c'était merveilleux. Je me suis dit, je vais rentrer dans une coopérative, on va décider ensemble, etc. C'est un chemin qui n'est pas évident, qui n'est pas facile, mais j'avoue que pour rien au monde, je ferais machine arrière, parce qu'aujourd'hui, quand même, on est 36 salariés, on est nombreux, on fait entre 13 et 15 000 heures d'interprétation par an. On fait 1 million de chiffres d'affaires. Tout ça sous un modèle associatif avec un conseil d'administration qui serait bénévole et qui n'aurait que quelques heures à nous accorder par mois, ça ne serait pas possible.
Ça ne pourrait pas fonctionner, effectivement.
Donc, c'est difficile, il faut qu'on se mette tous d'accord. Ça demande du temps, du débat, ça demande des concessions, etc. Mais pour moi, c'est vraiment une situation idéale.
Je voudrais, Élise, qu'on revienne, Denis, si vous le permettez, sur la formation. Comment devient-on interprète en langue des signes?
Il y a en France plusieurs formations d'interprètes. À Toulouse, il y a une formation aussi d'interprète. C'est une formation trilingue à Toulouse. Elle est français, anglais, langue des signes, alors que les autres formations sont juste français, langue des signes. Ces formations délivrent toutes un master 2 d'interprétation.
D'accord.
Et pour y rentrer, il faut passer un concours. En fait, on est évalué sur le niveau de langue qu'on maîtrise déjà. Et il faut déjà avoir les diplômes suffisants, parce que pour rentrer en master 1, il faut déjà une licence, par exemple.
Ouais.
Mais à Toulouse, il y a un cursus qui démarre dès la licence 1. Donc, on peut rentrer en licence 1 après le bac.
Qui s'appelle ?
C'est au CETIM, au centre... c'est à l'université Jean Jaurès et c'est dans la filière de LEA et c'est vraiment un cursus langue des signes français et anglais. Sur les trois premières années de licence, il y a d'ailleurs des personnes sourdes, des étudiants sourds qui participent. Eux, ils sont trilingues, mais ils font français seconde langue, français langue des signes en seconde langue, et pas nécessairement l'anglais, mais certains le font aussi, voilà.
D'accord. Et donc ensuite, après le Master 2, on peut effectivement commencer à signer.
C'est ça. Alors nous, à Interprétis, on est le seul service en France. On prend des contrats de professionnalisation. On est les seuls à faire ça. Donc on prend des étudiants de Master 2 qui sont à la fois à l'université, à la fois chez nous. Et on les accompagne toute cette année-là jusqu'à l'obtention de leur diplôme. leur diplôme. Et quand donc, on peut, on les garde.
Bien sûr, mais alors ça, c'est très intéressant de le dire.
Oui.
Vous allez avoir des appels. Denis, une dernière question.
Oui, vous nous avez dit tout à l'heure que le métier était très féminin. Pourquoi, à votre avis?
En fait, tous les métiers de la communication sont majoritairement féminins. La plupart des métiers où il y a beaucoup de communication sont souvent très féminins. Alors, heureusement, il y a quand même quelques hommes, on en a besoin. mais c'est... Disons que les compétences liées à la parole et au langage, elles sont souvent valorisées chez les femmes. Et là, il y a un gros travail éducationnel à faire. C'est que ce sont des compétences qui pourraient très bien être développées par les hommes, pour peu qu'on en accorde de l'importance et qu'on les valorise. Mais ça prendra des générations.
Merci beaucoup, Élise. On peut vous joindre facilement. Vous pouvez nous rappeler l'adresse de votre site internet.
www.interprétis.fr.
Merci encore. C'était un plaisir de vous accueillir et d'en apprendre énormément sur ce monde des sourds et malentendants et surtout cette façon de communiquer. Merci à vous, Denis, également.
Merci
à vous de nous écrire entreprendre@radioprésence.com.